Attention,
l'ambiance est bonne et le café est bon.
Ah ça c'est vrai, on est très bien reçus.
Bienvenue nouveaux compagnons.
De la musique, de documentaire, etc.
20 minutes écoute notre émission.
Attention. Hommage spécial dédicace.
Bienvenue dans l'émission de 2022 de juin. Tout d'abord, j'aime le canal. Une étape à Montauban le 22, ensuite à Toulouse, Carcassonne et Agde, qui se terminera le 10 juillet. Et avec beaucoup d'artistes, des expos, du théâtre, de la musique, des lives. Et voilà, bienvenue, j'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses.
Toulouse le dimanche 26 juin et Carcassonne le 2 juillet.
Venez nombreux.
Un événement à pas rater. Notez-le sur votre agenda.
Qui fait concurrence et pas des moindres au gros festival commercial.
Nous vous présentons premièrement le projet J'aime le canal sur un teaser. Larguez les amarres.
Ensuite, vous entendrez le rap de Genzou. On vous laisse découvrir cet artiste 100% original de la scène rap toulousaine qui se produira le 22 juin à Montauban, les 26 juin à Toulouse, les 2 juillet à Carcassonne et le 10 juillet à Agde sur l'événement. Quel événement déjà ? Mais oui, c'est bien celui-là, c'est J'aime le canal.
Et Pierre Boutonnet qui lit un texte qui s'intitule « Le lait concentré sucré » avec une musique de moi-même, Olivier Serra.
Je vous propose un morceau de musique « Piano et lancé » de Ludovic Auger pour la première partie.
Une interview d'Emmanuel Gras pour changer un peu de sujet. Dans cette émission, un réalisateur du film « Un peuple » autour des mouvements sociaux, des gilets jaunes, au sujet social et politique.
Cette interview a été faite par Vincent Galzin, reportage 31, à l'Utopia Tournefeuille, que nous remercions chaleureusement.
Et cette voix, devinez laquelle c'était, vous ne pourrez pas deviner, je vous le dis donc. Juliette, une de nos deux nouvelles stagiaires, que nous accueillons également chaleureusement.
Je vous propose la suite avec la deuxième partie du morceau « Piano et lancé ».
Ensuite, voici le premier épisode d'une longue, longue saga d'un conte radiophonique de Brigitte Chaput intitulé « Les petites princesses ». Une véritable aventure utopico-interstellaire. Laissez-vous transporter sur une autre planète et découvrir les héros de la saga.
Et ensuite, Camille qui nous fait plonger dans les années 70 dans une période assez psychédélique avec le groupe Grateful Dead. Et le titre s'intitule Saint-Stephen. Et Pierre Boutonnet ensuite, avec moi-même, Olivier Serra, qui lit un texte sur les flamants roses.
Et la suite avec le dernier partie de Piano et lancé, fin.
Ensuite, je vous récite un voyage que j'ai fait au Portugal printemps 2014, avant un voyage à Lisbonne que je vais faire avec Micro-Sion. Et tout de suite, le teaser du projet J'aime le canal.
Et bon vent,
à très vite.
Que ça flotte au mieux.
À bientôt.
Sans trop tanguer, larguez les amarres.
Larguez les amarres à bord de la péniche pour J'aime le canal. Partez depuis Montauban à partir du 22 juin, en passant par Toulouse le 26 juin, Carcassonne le 2 juillet, pour arriver à Agde le 10 juillet.
Lancé en 2018, le projet J'aime le canal regroupe l'ensemble des jeunes
groupe d'entraide mutuelle de l'Occitanie.
Durant 18 jours, naviguez tout au long du canal pour sensibiliser les problématiques inhérentes au handicap psychique et difficultés sociales. Au programme, participation aux émissions radio et découverte des œuvres réalisées par les GEM sur chacune des étapes. Pour plus d'infos, gemcanal.tlse@gmail.com ou par téléphone au 09 50 55 99 35 ou rendez-vous sur le site microsillon.free.fr.
Microsillon.
Gendouz back. Hey man, j'ai pris du poids depuis que je pèse mes mots. Au fond de moi, j'ai plus le choix, faut que je pèse le flow. Cracher dans le mic, poser son empreinte pour piquer l'instru. Elle est tombée enceinte, qui m'aurait cru? Obligé de gonfler son estime au quotidien. Je fais des haltères de l'ego avec le flow qui vient. Peu importe la nature de la qualité sonore, la facture est souvent là. Ouais, gros, j'y tiens. Ici pas trop d'ordures à la recherche de l'or pur. Ça sature d'un propos fait d'injure. C'est quoi le thème? Et du côté obscur, un MC singulier, l'esprit qui perdure, pas là pour briller en billet. Alors je fais mes bails en silence. Le sens critique de réussite pour la reconnaissance. Admiratif de ces artistes qui persistent et résistent face aux rimes, je tape de l'obsolescence. La lâcheté d'être acheté, toujours trop entaché. Une propagande bien ancrée, si peu de fans engagés. On va s'ambiancer, ça ne pense qu'à danser. Pompe à fric, Titanic, trop de braves naufragés. J'ai pris du poids depuis je pèse mes mots. Au fond de moi j'ai plus le choix, faut que je pèse le flow. Cracher dans le mic, poser son empreinte pour kicker l'instru. Elle est tombée enceinte, qui m'aurait cru? J'ai pris du poids depuis que je pèse mes mots. Au fond de moi j'ai plus le choix, faut que je pèse le flow. Cracher dans le mic, poser son empreinte pour kicker l'instru. Elle est tombée enceinte, qui m'aurait cru? Est-ce que ça tente? Une trace de manque consommé pour se consumer. Plus belle la vie, c'est de la poudre aux yeux. Évidemment, être heureux, lassé du passé. Tirer un trait sur le néfaste, je demeure consciencieux. Le sang perce, depuis que le sens perce, je m'exerce à jouer de mes capacités. Créditer l'humanité plutôt que porte-monnaie. Trop d'aveugles à la bêtise humaine, des cas de la cécité. Débris de verre, de vipère en pervers. Fidèle comme loup solitaire, toujours à mon poste. Clash en merde sur le net, ça te geek ta mère. Populaire, polulaire, touche pas à mon pote. Aucune envie de troller sans devoir détrôner. Ceux qui font le plus de bruit, c'est qui tâtonnent dans la nuit. Aucune envie de troller, moi vouloir être honnête. Se fondre dans la nuit, la surprise du MC. J'ai pris du poids, depuis que je pèse mes mots. Au fond de moi, j'ai plus le choix, faut que je pèse le flow. Cracher dans le mic, laisser son empreinte pour kicker l'instru. Elle est tombée enceinte, qui m'aurait cru? J'ai pris du poids, depuis que je pèse mes mots. Au fond de moi, j'ai plus le choix, faut que je pèse le flow. Cracher dans le mic, laisser son empreinte pour kicker l'instru. Elle est tombée enceinte, qui m'aurait cru? Obligé de gonfler son estime au quotidien. Je fais des haltères de l'écho avec le flow qui vient. Est-ce que ça tente? Une trace de manque consommé pour se consumer. Plus belle la vie, c'est de la poudre aux yeux. Évidemment, être heureux. Tellement lassé du passé, tellement lassé du passé. Dans la nuit, klaxonner, ne pense qu'à danser. Un MC singulier, hostile, qu'à danser. Gonfler son estime au quotidien. Des haltères de l'ego avec le flow qui vient. Gonfler son estime au quotidien. Des haltères de l'ego avec le flow qui vient. Genzo.
Notre après-midi commençait par le café. Il avait le goût de celui qui n'annonçait pas de reprise intempestive du travail. Et son seul défaut était d'être le quatrième de la journée. Il faisait frais, ce qui n'étonnait personne. Le gâteau pesait beaucoup trop sur la digestion, sur l'estomac, pour que celui-ci songe à repousser la boisson qui se posait sur la table, porté par une habitude probablement séculaire. C'était le début de l'été, cette saison de 4 mois ou presque, qui laisse le Pas-de-Calais
en dehors des cartes des exils, où l'espoir perd jusqu'à son orthographe. Les fleurs rappelaient que la terre, ici comme ailleurs, tourne. Le soir était loin, aussi loin que le matin. La mer, à moins de 20 km, se laissait deviner, mais seulement pour les natifs de la région. Le café, une aigreur, une odeur, qui sans cesse revenait, se proposait, au milieu des mots, des rires inattendus, pourtant logés dans un rituel qui variait peu. La tristesse était tolérée. Les projets fantasques, avec presque moins de couleurs que les couleurs du ciel, se mélangeaient aux bribes de souvenirs brassées par les courants de l'air libre. Il fallait bien remplir les tasses pour étirer les miettes de ces moments réinventés à l'ombre des arbres fruitiers, à peine plus haut que les rosiers dispersés un peu plus loin. Les enfants d'avant-hier notaient combien avaient grandi les enfants d'hier. Eux n'étaient pas encore accrochés à ces moments dérobés au temps qui passe, pas attachés à cette boisson venue des tropiques. La cafetière, une fois vidée, restait triomphante, près d'une heure, trônant au milieu des mégots écrasés de cigarettes. Les corps avaient glissé dans la satisfaction passagère, parfois devenue, pour un temps, oublieux des effets des jours qui défilent sur nos têtes.
des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent.
Bonjour ou bonsoir, me voici avec le réalisateur du film Un Peuple. Eh bien, je vais le laisser se présenter.
Eh bien, je m'appelle Emmanuel Gras, donc oui, j'ai réalisé le documentaire cinéma pour Un Peuple et j'ai déjà fait, c'est mon quatrième film qui sort en salle.
Par rapport à vos films, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas forcément, est-ce que ça a été toujours dans le domaine sociétal, de mouvement, comme, ou c'est assez diversifié?
Non, c'est plutôt diversifié. Mon premier film était sur l'élevage, mais vu du côté des animaux, ça s'appelait Bovine, donc c'était vraiment, on était avec des vaches, quoi. Voilà, c'était un film animalier, mais sur des animaux d'élevage. Mon deuxième était plus social, c'était sur un centre d'hébergement d'urgence pour sans-abri à Marseille. Et mon troisième était au Congo, en République démocratique du Congo, où c'était une histoire vraiment individuelle. Il y a toujours une part de social, si on veut, dans mes films, mais là, c'est la première fois que vraiment je tournais ma caméra vers un mouvement social.
Où il y avait des risques plus importants aussi pour vous et pour votre caméra et tout le monde qui était autour.
Il se trouve que oui, dans le mouvement des Gilets jaunes, puisque en fait dans le film, j'ai beaucoup filmé les manifestations à Paris. C'était des manifestations où il y avait beaucoup d'affrontements, beaucoup de violences et il y a eu beaucoup de blessés. Donc oui, il y avait plus de risques, mais c'était pas prévu au départ.
Que pourriez-vous nous dire sur ce film? Comment vous est venue l'envie? Vous étiez déjà, vous, personnellement engagé dans ce mouvement social? Ça vous parlait? Vous étiez, comme on dit tout à l'heure, des soutiens, enfin des sympathisants?
Moi, oui, les mouvements sociaux, j'ai participé à beaucoup de manifestations. J'ai été militant quand j'étais plus jeune et j'ai beaucoup filmé notamment les manifestations depuis 4-5 ans. Et donc, moi, ça, au départ, non, je n'ai pas vraiment fait attention. En fait, au tout départ, je veux dire, le 17 novembre, je n'étais pas sur des ronds-points, plus j'habite à Paris. Mais par contre, dès que j'ai vu les manifestations de fin novembre, début décembre à Paris, j'ai eu envie de monter sur les ronds-points. Non pas parce que je me sentais d'abord en accord, je sentais qu'il se passait quelque chose d'important, mais c'était plutôt pour comprendre en fait, comprendre avec la caméra, mais comprendre en fait quel était ce mouvement. Je ne savais pas au départ ce que c'était.
On vous le demande dans le débat par rapport aux interventions qu'il y a eu, par rapport à la ville Chartres, c'est ça?
Chartres, oui.
Pourquoi vous n'avez pas, parce que c'était sûrement plus compliqué de visiter, de faire, et Paris aussi, mais sinon d'aller plus en province, de vous déplacer pour voir les différents mouvements qu'il pouvait y avoir, comment c'était interprété?
Il faut dire qu'à Paris, il n'y avait pas de gilets jaunes au départ. Donc Chartres, en fait, c'est quand même à 1h30 de Paris. Donc c'est la province, hein.
Je suis plus vers ici,
D'accord.
De venir vers ici.
Oui, c'est ça. Non, c'est vrai qu'il y a il y avait des différences en fait suivant les régions, mais non, moi, le problème, il y a toujours un choix à faire quand on fait un film. Soit on se balade et on chope des choses comme ça qu'on trouve en fait en se baladant, en allant d'un endroit à l'autre. Soit on creuse un endroit. Et en fait, finalement, moi, j'ai préféré creuser ce qui se passait, rester vraiment 6 mois, toute la durée du mouvement, avec un groupe pour comprendre en fait à l'intérieur même du groupe qu'est-ce qui se passait, comment ça a évolué. Et voilà, j'ai fait ce choix-là consciemment. Parce que sinon, je pense que j'aurais eu un panel de choses peut-être intéressantes, mais pas aussi approfondies que ce que moi j'ai voulu faire.
Quelle parallèle, différence et en même temps similarité, parce que ça a été un mouvement social aussi, avec Nuit Debout, qu'on a vite fait évoquer avant l'interview, où j'ai un petit peu participé, et qui a été encore plus court que les Gilets jaunes.
Alors je ne sais pas combien de temps a duré le mouvement Nuit Debout ici. À Paris, ça a duré quand même assez longtemps, mais beaucoup moins que les Gilets jaunes malgré tout. Pour moi, il y a une différence essentielle, c'est que c'était un sitting où les gens venaient discuter, et avec des discussions très intéressantes, des conférences même. Il y avait un côté très intellectuel du mouvement Nuit Debout. Là, l'énorme différence, c'est que c'est l'action qui a primé sur l'aspect discussion. Et la discussion est venue de l'action. Les gens discutaient de quel mode de stratégie, manifestation déclarée ou pas déclarée, quelle revendication. C'est venu en fait du fait qu'il y avait une nécessité d'abord d'agir, et la nécessité profonde aussi des gens. Ils n'agissaient pas par souci d'idée ou d'idéal, ils agissaient parce qu'ils avaient une révolte en fait à exprimer d'abord. Et c'est ça la grande différence. Le point de départ n'est pas le même. c'était comme presque l'inverse des Nuits Debout, même si au final on retrouve des réflexions communes. Le mouvement intérieur de la mobilisation était vraiment différente.
Il y a eu plusieurs films, enfin il n'y en a pas eu énormément, autour du mouvement des Gilets jaunes. Il y en a eu même un qui est passé dans les grandes salles, qui a été autour des hôpitaux, Fracture, je crois.
Friction.
Qui est pas resté longtemps, qui était pourtant, moi je l'ai vu, bien intéressant. Que pouvez-vous dire sur ces différentes productions, les axes, les points de vue de réalisation et tout?
Alors justement, en fait, le premier film qui a été fait sur le mouvement des Gilets jaunes, c'était « Je veux du soleil » par Ruffin et Perret. En fait, où justement, eux, ils ont fait ce dont vous parliez avant, c'est-à-dire d'aller sur différents ronds-points. Le tournage avait duré juste une semaine et ils sont allés rencontrer. Et je pense que ça nécessitait à ce moment-là parce qu'il s'agissait de montrer des gens qui échappaient aux clichés qu'on avait donnés au départ des Gilets jaunes, c'est-à-dire d'être des racistes un peu fachos. Donc il y a eu ce film-là. Pour moi, mon film, il est différent justement pour ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire que moi je montre une évolution sur le long terme. Il y a eu aussi comme autre film important, en fait, c'est Un pays qui se tient sage, qui était plus sur la question des violences policières et qui a montré qu'il y a eu une réelle répression brutale de la part des forces de l'ordre de ce mouvement. Donc ça fait déjà 3 films. Plus, il y a aussi d'autres films qui ont été peut-être plus discrets, d'autres documentaires faits sur des ronds-points, faits sur la vie des Gilets jaunes, qui sont sortis en salle. Les ronds-points de la colère qui a été fait. Il y a un ensemble de films comme ça. Et je crois
que j'évoquais aussi dans les hôpitaux qui étaient peut-être plus spécialisés par rapport où ils se sont servis de cet aspect-là pour faire ce film-là.
Oui, tout à fait. Mais alors celui-là, c'est que je ne l'ai pas vu. Alors c'est pour ça que j'en ai pas. C'est un film, je sais qu'il était très bien et qui mettait en parallèle la révolte des Gilets jaunes et
la difficulté des crises hospitalières.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc, c'était certainement très intéressant, mais je ne l'ai pas vu. Et c'est une fiction, alors c'est une autre manière d'aborder les choses, mais moi, je pensais plutôt au documentaire.
Par rapport à celui que vous disiez, là, Un pays qui se tient sage, il y avait pas mal d'intervenants dans le film. C'était plus des moments de discussion, enfin de spécialistes, quel regard ils avaient, et aussi de personnes qui avaient vécu les Gilets jaunes, par exemple. Mais c'était plus comme un documentaire, débat télé, plus ou moins. Je ne sais pas comment le raconter. Enfin, qu'est-ce que vous pourriez en dire pour les gens qui l'ont vu ou qui ont vu juste des extraits
Oui, en effet, Un pays qui se tient sage, c'est plutôt... Enfin, le principe du film, c'est d'avoir... Ils montrent les images et en fait, ils font parler les gens sur les images et avec des gens qui analysent. Et c'est beaucoup plus... En effet, des spécialistes, des sociologues, il y a un policier aussi, ou des avocats, plutôt des gens qui expliquent ce qu'ils voient. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, mais c'est en effet plus un documentaire d'analyse. Parce que moi, j'ai donné la parole d'abord aux gens qui étaient actifs dans le mouvement, c'est-à-dire aux gens de terrain, qui ne sont pas des spécialistes de quoi que ce soit. Mais je pense qu'un documentaire, ça doit aussi être, non pas toujours pour expliquer les choses, mais plutôt pour permettre de les comprendre autrement que par l'intellect, par l'émotion. Parce que, et c'est ça que j'ai voulu mettre dans le film, c'est-à-dire qu'on sente les espoirs, les désespoirs, l'énergie qui, à un moment donné, fait qu'on se lève le matin pour aller se battre, et aussi celle qui fait qu'on est trop en colère et qu'on va se mettre à casser. Et avant tout, l'énergie qui émerge du collectif. C'est-à-dire, ce qu'ont découvert les Gilets jaunes à ce moment-là, c'est la lutte collective pour des gens qui étaient, la plupart du temps, assez isolés les uns des autres.
Et pour finir, on va parler un peu de... Il y avait les amis du monde diplomatique, là, de diplomatie, parce qu'en ce moment, avec la guerre en Ukraine, c'est le sujet aussi. Mais que pensez-vous des médias, des gros médias, malheureusement, avec le Covid, là, qu'ils relèvent, ils enlèvent le pass, le masque, parce que c'est une histoire politique, et que les gros médias sont à la botte, souvent, ils disent ce qu'ils veulent par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport au mouvement des Gilets jaunes, ils détournent la chose.
Là, vous avez un avis très tranché sur les médias. Je pense que quand même, il y a des médias comme Le Monde Diplomatique, comme Mediapart, où moi je trouve qu'ils font un vrai travail journalistique intéressant. Après, sur la manière dont est traitée l'info, moi ce que je constate surtout, c'est qu'il y a un grand danger là de concentration. On le voit avec Bolloré, d'un côté il y a Bolloré, de l'autre côté il y a Niel et Bouygues. Enfin voilà, qu'en gros les médias sont de plus en plus tenus par quelques personnes qui ont un énorme pouvoir du coup. On le voit avec la façon dont Zemmour a été mis en avant pour les élections présidentielles, ça a des conséquences réelles sur la démocratie, quoi. Et là, moi, je sais pas, je pourrais pas dire la façon dont est traitée l'Ukraine. Je suis vraiment pas un spécialiste pour dire est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a de la désinformation. Sur le pass sanitaire, c'est aussi un truc assez compliqué sur lequel, moi, plutôt que de parler des médias, c'est vraiment plutôt, je vois bien qu'il y a une espèce de politique de la peur, quoi. Et ça, un autre documentaire en parlait déjà il y a bien longtemps, c'était Bullying for Columbine de Michael Moore, qui expliquait, donc c'était aux États-Unis, mais qui racontait en fait comment est-ce que chaque, il y avait en permanence une peur qui était poussée, en fait, parce que la politique de la peur, en fait, c'est une politique efficace, en effet, pour faire un peu aux gens ce qu'on veut.
Et ça rend dépendant, comme le système de surconsommation, un peu, si on fait ce lien-là.
Ouais, donc, le désir, la peur, c'est des affects qui sont très primaires, hein, et donc, oui, par rapport à... Ça va très bien avec un monde libéral, c'est-à-dire d'avoir des gens qui sont effrayés de se retrouver, effrayés les uns des autres, et en même temps, prêts à consommer pour se rassurer. Alors là, je vais vraiment dans votre sens, hein. Moi, je sais pas, je me lance dans des trucs un petit peu généralistes, mais oui, on peut se dire qu'en tout cas, ça fonctionne, que l'économie peut fonctionner très bien avec la peur, l'autorité et des choses à consommer.
Mais merci de votre participation. Si vous voulez rajouter quelque chose, peut-être par rapport à votre film ou à d'autres en prévision.
Non, juste que, pas nécessairement par rapport à mon film, mais juste que, en fait, c'est important que les gens continuent à se mobiliser. Et là, on voit bien qu'après, le Covid a écrasé beaucoup les énergies. Hein. C'est vraiment terrible parce qu'il y avait une mobilisation contre la réforme des retraites avant qui a été interrompue. Et après, il y a eu des mobilisations avec le comité Adama. Je me rappelle que c'était à Paris. En tout cas, ça a été assez fort sur les violences policières encore. Et que là, après beaucoup de nouveaux mois comme ça, d'empêchement, en fait, les gens sont épuisés et qu'on a une élection présidentielle où il n'y a pas vraiment de campagne. Enfin, il y a une espèce de marasme terrible. Moi, j'espère juste qu'à un moment donné, les gens se retrouvent et aient envie de mener des luttes collectives.
Et merci. Juste, si j'en rajoute une, parce que vous me faites penser à ça. Ça a été évoqué dans le débat. C'est par rapport au lien, au rapport avec les syndicats. Parce que vous parliez des retraités, là, par exemple, les syndiqués CGT ou d'autres syndicats, mais plus particulièrement celui-là, qui historiquement était assez révolté, par rapport à mai 68 et d'autres luttes, assez révolté, qu'ils n'avaient pas peur d'aller de l'avant. Et là, pendant les mouvements de Gilets jaunes, par exemple, ils partaient, quand ça dégénérait, facilement, vous voyez, ils font les beaux discours, les hauts micros, les belles paroles, mais après, voilà, ils ne s'assuient pas.
Oui, mais là, vous m'embarquez sur des avis hyper tranchés. Je sais qu'il y a eu un truc, en tout cas, de la part des syndicats qui n'ont pas vu d'un bon œil au départ le mouvement des Gilets jaunes. Je sais qu'il y a eu des tentatives de rapprochement, non pas des structures syndicales, mais en tout cas de la part de gens syndiqués. Il y a une vraie difficulté, en fait, pour les syndicats à appréhender des mouvements qui ne viennent pas de leur univers, quoi. Et je sais pas, je sais que certains Gilets jaunes que je connais bien disent, en fait, ce que vous dites, c'est-à-dire que les syndicats pouvaient apparaître à un moment, mais disparaissaient quand c'était important. Moi, je peux pas dire que j'ai vu ça de mes propres yeux. Alors, je préfère pas dire quelque chose que j'ai pas vu. Ce que je sais, c'est qu'il y a pas eu de, il y a pas eu de rencontre réelle entre les deux, qu'il y a un raté. Mais c'est aussi que, en fait, le mouvement syndical en France perd beaucoup de sa puissance. Et c'est pas que de la faute des syndicats. C'est aussi beaucoup la faute de la structure du monde du travail aujourd'hui, qui a été pensée pour détruire l'action collective au niveau syndical, puisque le monde du travail s'est fait en filiale, avec des gens qui ont, personne n'a les mêmes contrats, il n'y a pas de convention collective dans beaucoup de domaines, donc des gens qui n'ont pas les mêmes choses à défendre, et ça a été vraiment pensé pour éviter que les gens puissent se retrouver, et c'est quelque chose à reconstruire, je ne sais pas comment.
Oui, et qu'on le veuille ou non, il y a des lobbies aussi derrière tout ça qui malheureusement empêchent de cette cohésion sûrement entre le peuple et les syndicats.
Bah, ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas si c'est des lobbies, mais en tout cas, il y a des intérêts du patronat qui sont. Mais voilà, moi, je pense d'abord en fait en termes de lutte des classes. Et c'est clair que voilà, les classes ouvrières, parce qu'en fait, la classe ouvrière existe toujours. C'est juste que en fait, le monde du travail a été divisé. Mais en fait, il y a quand même des gens qui travaillent pour vivre, qui soient employés, qui fassent des ménages ou qui travaillent en usine. Ça reste pour moi, ça reste la classe ouvrière et en face de cette classe-là, il y a une classe de gens qui ont des intérêts complètement divergents que la classe des dominants.
Pour essayer de ne pas faire de généralité, c'est vrai, mais c'est compliqué de nos jours. Mais merci encore de votre participation et au plaisir de se revoir à une autre occasion. Et bon retour à vous.
Bah, je continue ma tournée, hein, donc je ne rentre pas chez moi avant le mi-avril. Donc là, pour l'instant, je vais faire la tournée de plein de villes pour présenter mon film.
D'accord.
Merci.
Au revoir. Et content de vous avoir rencontré ici à l'Utopia Tournefeuille.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial, voilà, reportage 31.
Vincent,
attention, attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Non, merci.
Non ? Non. Pourquoi ?
Vous êtes vous, quoi ?
Une fois, un roi nommé Juan. Il vivait dans un lieu appelé la comète de Halley. Celle-ci était composée d'un grand désert, de verdure, de bois, et il y vivait de nombreux animaux sauvages et domestiques. Juan savait que des êtres humains, qu'il n'avait jamais rencontrés jusqu'à présent, passaient leur temps à déambuler du désert à l'entrée des bois et inversement. Après avoir tant vécu dans ce désert d'éternelle solitude, Juan commençait vraiment à s'ennuyer. Il savait que seule une courte distance le séparait des quelques personnes vivant sur un espace de verdure et de bois. Tout s'y déroulait comme dans le meilleur des mondes. Un jour, il pressentit qu'après tout, s'il allait frapper à leur porte, il aurait une grande chance d'être accueilli à bras ouverts, ou en tout cas au pire, sans le moindre rejet de leur part. Lourd de son passé de solitude, installé sur son dos en bandoulière, Juan se mit debout et entama son chemin de marche vers ce nouveau monde tant espéré. Au bout d'un temps relativement court, il vit au loin un horizon terrestre particulièrement large. Le sol était recouvert d'une immense verdure. Fronçant les sourcils, Juan eut l'impression que le paysage s'étendait jusqu'à l'infini. Plus il s'approchait, plus il appréciait ce que son regard lui dévoilait. De multiples fleurs naissaient entre les brins d'herbe, d'innombrables teintes coloraient le sol. Dans le ciel, on distinguait souvent les diverses couleurs de l'arc-en-ciel.
« Quelle beauté !»
s'exclama Juan. Soudain, de l'air se mit à interpréter un son musical. C'était le vent. Il bougeait doucement. Il soulevait les brins d'herbe et les pétales de fleurs.
« Quel spectacle magnifique !»
dit Juan, les yeux écarquillés. Tout s'agitait et ainsi vivait. Juan n'avait jamais perçu une sensation semblable jusqu'alors. Mais malgré tout, encore seul, il restait à l'affût d'un être lui ressemblant. Il aurait ainsi l'occasion et le plaisir de s'exprimer avec quelqu'un. Il avait oublié, par sa vie de solitaire, à quoi pouvait bien ressembler le son de sa voix. Juan n'eut pas besoin de marcher bien longtemps encore pour croiser un homme à l'orée d'un bois. Les arbres étaient hauts et leurs troncs assez larges. Ils étaient positionnés de telle manière, les uns à côté des autres, qu'il était quasiment impossible de deviner s'il y avait des êtres vivants à l'intérieur de cet espace boisé. Juan s'en approcha doucement et, surprise, il eut l'impression, en un clin d'œil, de se voir dans un miroir. Un grand homme noir était debout devant lui. Il avait des cheveux roux, raides et longs jusqu'aux épaules. Il avait une barbe et une moustache de la même couleur. Ses yeux étaient marrons. Il portait un jean et une chemise blanche enveloppant son ventre assez fort et cachant le haut de son pantalon. Apparurent alors de nombreux animaux, certains au loin, à l'intérieur de la forêt, au sol et sur les branches des arbres. Des animaux domestiques s'approchèrent de l'homme inconnu, un chat, un chien et un mouton.
« Bonjour !»
s'exprima Juan.
« Vous vivez seul ?»«
Non !»
répondit l'homme.
« Nous sommes plusieurs à cohabiter au centre de la comète de Halley. Si vous voulez me suivre, je vous présenterai mes amis. »
Juan et son compagnon de route ne marchèrent pas bien longtemps avant d'arriver au cœur d'un village. Enfants, femmes, hommes et animaux déambulaient les uns auprès des autres. Chacun avait une couleur de peau bien distincte, s'éclaircissant en allant du noir au blanc. La taille de leurs cheveux s'étendait du ras du crâne au talon. Ils avaient des formes et des teintes diverses, et parfois même mélangées. De nombreux cris de joie de la part des enfants retentissaient.
« Si vous le souhaitez, je vous conduis à une auberge, où vous serez accueillis comme un roi. »
Juan accepta.
J'avais soif. J'étais perdu, désespéré. Seul peut-être. J'avais un mirage. Mes yeux se brouillaient. J'avançais, titubé. Vis au loin un mirage, quand soudainement, j'entendis la voix réconfortante de
Micro-Sion.
Flamants roses sont pour moi de grands voyageurs.
leur petit monde se dessine, sous leurs ailes, sous leurs pattes. Ils volent, nagent, marchent. Attirés par les zones humides, ils se ramènent au sol quand ils le veulent, le décident. Fatigués de se mouvoir, le long des grandes masses d'air. Je ne les ai vus que de loin, ou dans des reportages. Pourtant, ils me fascinent. Des flamants roses, des médiateurs, vers un ailleurs. On oublie souvent que leur long bec courbé est destiné à capturer des poissons. Ce que leur cou puissant et dessinant un S peut traquer dans les eaux des lacs et des marais. Ces marais qui font leur cadre de vie, les rendant majestueux, rehaussant leur belle solitude, nimbée de paix. Le flamant rose, empreinte de noblesse au regard des hommes. Ils apportent une couleur, une joie, au milieu de la quiétude, verte et bleue qui les environne. Les fleurs éclosent, des compagnons de route tout indiqués. Des échos de couleurs à leur présence perchée. Si des couronnes de fleurs pouvaient s'accrocher à des vies, sûr qu'elles se poseraient autour des ailes de ces oiseaux sauvages. Les flamants roses sont pour moi des pièces détachées de machines à rêve, réfugiées dans des espaces verts où l'eau douce rencontre celle de la mer. Ces échassiers invitent à contempler, à ouvrir sur des paysages qui s'enchantent, sur des souvenirs de l'enfance et ses facéties, sa simplicité, ses regards émerveillés, ses débordements ignorant les affres du temps. Ils déploient leurs ailes dans les replis d'un cadre où se mêlent la vase entêtée, les lacs immobiles, les hautes herbes folles, la mousse vagabonde, les algues alertes, la petite faune qui se réjouit de l'eau. Je me prends à entendre le vol régulier et puissant de quelques flamants roses qui ont entendu mon appel et qui vont peut-être m'emporter pour un temps, le temps d'un rêve, un rêve de couleur douce et de couleur heureuse. Et des couleurs heureuses.
Débat, atelier.
C'est micro-sillon!
L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat.
Le micro-sillon.
L'or arrivait, sublime, fastral, comme une torche salée, me brûlant la peau, en écoutant microsillon.fr.
Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter pour...
Prochain arrêt, les périples de Jean-Noël.
Je suis parti une semaine seul au Portugal, printemps 2014, en circuit. Nous avons dormi à Lisbonne, à l'arrivée et au départ, dans un hôtel avec piscine. J'ai visité les monuments principaux de la capitale du Portugal au retour, dont la tour de Belém, le monastère des Jérônimos, avec la tombe de Vasco de Gama, le monument des découvertes et goûté le fameux Pastéis de Belém. J'ai vu à l'arrivée à Lisbonne également le Benfica fêter leur titre de champion. J'ai visité d'autres villes également, dont Porto, Coimbra, Nazaré, Fatima, Amarante, Obidoche, Gramesh, Braga. J'ai également fait une croisière sur le Douro à Porto, ainsi que été dans des caves de Porto pour découvrir leur célèbre alcool. À Lisbonne, j'ai participé à un spectacle de fado également, en espérant passer de bons moments à Lisbonne avec Microsillon.
L'émission
est terminée. Au revoir. On se retrouve.
Rendez-vous le mois prochain.
Chrono.